Jean-François Zigel. La preuve par Z. Une émission de musique classique faite à la main et pour les oreilles. Bonsoir.
Florence dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers. Florence dimanche, tu te penches sur la joie du quartier. Quel est ce charmant cortège de filles et de garçons? Quel est ce joli manège de regards polissons? Quelle est cette ville en fête? C'est celle de mes souvenirs, de mes jeunes amourettes, de mes premiers désirs. Florence dimanche, sous les branches de l'allée des marronniers. Florence dimanche, tu te penches sur mon cœur tout entier. La sortie de la grand-messe dans la rue de l'Argenterie a tout l'air d'une kermesse devant les pâtisseries. Allons, cousine Germaine, choisir le gâteau des rois. La foule qui nous entraîne, joyeuse nous y conduira. Nous y verrons les deux filles du colonel du Barada. Elles sont vraiment très gentilles, lui est un peu gaga. France dimanche, de province, en dépit de mon air moqueur, il fallait que tu devinsses la chanson de mon cœur. À Paris, on se promène, avenue des Champs-Élysées, qu'ils sont loin, cousine Germaine, nos petits marronniers. Pourtant c'est le même dimanche, pourtant c'est la même joie, pourtant sous les mêmes branches, l'odeur des fleurs d'autrefois m'invite à la même fête, et de Joinville à nos gens, les valses dans les guinguettes sont musique d'antan. Florence dimanche, sous les branches, ta jeunesse refleurit. Florence dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris. France dimanche, quelle revanche au cœur du vieux Paris.
Qu'ils sont loin, cousine Germaine, nos petits marronniers, pourtant c'est le même dimanche, pourtant c'est la même joie. La nostalgie souriante et la voix ensoleillée de Charles Trenet pour une chanson d'après-guerre en forme de valse évoquant les charmes dominicaux de l'enfance en compagnie de sa gentille petite cousine Germaine. Enfin, attention, quand je dis cousine Germaine, je ne veux pas dire que c'est sa cousine Germaine, mais sa cousine Germaine. Enfin, c'est peut-être également sa cousine Germaine, mais ce que je veux dire, vous m'avez compris, c'est qu'elle s'appelle bien Germaine. Alors, c'était la chanson France dimanche, et il me semble que le dimanche, eh bien, voyez-vous, c'est un peu comme l'alcool. Il y en a qui ont l'alcool gay, il y en a qui ont l'alcool triste. Et de la même manière, il y en a qui ont le dimanche gay et d'autres qui ont le dimanche triste. Je vous propose de commencer en famille. Et chez moi, le dimanche, on n'y coupait pas, c'était le rituel. Dès le petit déjeuner, mon père mettait le disque des suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Alors inutile de vous dire que je les connais vraiment bien, ces suites, presque aussi bien que les violoncellistes dont c'est depuis longtemps le pain quotidien. Et comme il en existe des centaines et des centaines de versions, je vous propose de commencer par l'une des plus fameuses avec le menuet de la première suite dans la version d'Aner Bilsma. Violoncelliste hollandais Anner Bylsma interprétait le prélude de la sixième suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. La souplesse du phrasé et l'utilisation de cordes en boyau plutôt qu'en acier marquent le jeu de celui qui aura été avec Gustav Leonhardt et Franz Bruggen l'un des principaux acteurs du tournant baroque des années 70. Un tournant qui n'aura guère modifié la fidélité de mon père à la version historique que le grand violoncelliste français Pierre Fournier a réalisé en 1961. Un style de jeu totalement opposé, d'une densité et d'une intégrité qui ne peuvent, me semble-t-il, laisser indifférent.
Thank you.
Alors si la version de Pierre Fournier s'est imposée depuis plus de 50 ans comme l'une des grandes références pour les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach, celle réalisée en 2007 par le français Jean-Guyenne Queyras me semble faire en quelque sorte la synthèse entre les idées du milieu du XXe siècle et les habitudes plus récentes des interprètes spécialisés dans le répertoire baroque. Nous en écoutons maintenant le prélude de la sixième suite en ré majeur. Alors je ne sais pas comment vos dimanches en famille se déroulaient, mais à la maison, je devais immanquablement me mettre au clavier et jouer quelques œuvres aux membres de la famille qui nous rendaient visite ce jour-là. Pire encore, si quelques cousines ou cousins faisaient comme moi du piano, il me fallait immanquablement sacrifier à l'exercice du piano à quatre mains qui me semblait particulièrement malcommode et inconfortable. Il paraît que c'est Mozart qui a inventé la chose. D'après son père Léopold, il serait même l'auteur de la première pièce jamais écrite pour cette étonnante réunion de 20 doigts et de 4 pieds, à laquelle sacrifieront par la suite tous les compositeurs du XIXe siècle. C'est ainsi que Mozart compose dès l'âge de 9 ans sa première sonate pour piano à 4 mains, lors d'un séjour à Londres pour la jouer avec sa sœur Nannerle. Tiens au fait, saviez-vous que Mozart avait une sœur ? De 5 ans son aînée, elle suit avec son frère les leçons de musique paternelle, effectuant avec eux de nombreuses tournées européennes. Une relation complice, comme en témoignent les lettres pleines de malice et de tendresse qu'il s'envoie régulièrement. Nous écoutions Christoph Eschenbach et Justus Franz nous interpréter le charmant rondeau final de la sonate pour piano à quatre mains en ut majeur, composé à Londres par le petit Mozart pour sa sœur Nanerl l'an 1765, donc à l'âge de seulement 9 ans, et que l'on considère aujourd'hui comme la toute première pièce écrite pour piano à quatre mains. Alors je ne sais pas si on vous emmenait à l'église le dimanche, moi ce n'était pas mon cas, mais ça ne m'empêchait pas d'avoir le droit de temps en temps à une cantate de Bach, dont il est vrai l'écoute me semble constituer le meilleur argument possible de l'existence du Très-Haut. Voici par exemple le tout début de la cantate du dimanche des Rameaux et son dialogue aérien entre flûte et violon. Mais comme vous le savez, dans une cantate, ça chante. Sinon, ça ne s'appellerait pas une cantate. Mais comme les preuves par Z ne sont pas extensibles, je vous propose de passer directement au cœur final de l'œuvre avec ses voix fuguées pleines d'entrain et d'allégresse. Nous entrons avec joie dans Jérusalem, accompagnant le Christ dans l'amour et le chagrin. Il marche devant nous et ouvre le chemin.
Let's go.
Je vous emmenais au culte du dimanche matin avec ce chœur final de la cantate pour le dimanche des rameaux de Jean-Sébastien Bach dans l'interprétation du Bach Collegium Japan sous la direction de Masaaki Suzuki, alors que pour l'ouverture, j'avais choisi la version de Ton Kopman et de l'orchestre baroque d'Amsterdam. Et ne croyez pas que vous puissiez vous dispenser si facilement que ça de la sacro-sainte messe du dimanche matin. Rappelez-vous ce qui arrive au fameux conte rhénan du chasseur maudit de César Franck, qui préfère sécher la cérémonie pour aller à la chasse, sonnant du cor, tandis que tintent les cloches et s'élèvent les chants religieux. Mais le cheval refuse tout à coup d'avancer, et le cor ne fait plus entendre aucun son. Le glaçant d'épouvante, une voix d'outre-tombe s'élève alors pour le maudire. « Sacrilège, sois éternellement poursuivi par l'enfer. »
Thank you.
Nous écoutions par Michel Plasson et l'orchestre du Capitole de Toulouse un extrait du Chasseur maudit, génial poème symphonique composé par César Franck en 1882 et jusqu'à il y a peu de temps l'un des chevaux de bataille des orchestres français. Je me souviens très bien quand j'étais plus jeune que nous en avions presque un petit peu assez de ce Chasseur maudit, dont nous trouvions qu'il rejetait en quelque sorte dans l'ombre les grands chefs-d'œuvre de la fin de la vie de César Franck. Je pense aux quintettes avec piano, au quatuor à cordes ou à la sonate pour violon et piano par exemple. Mais puisque nous en sommes à évoquer les pièces qui ne sont pas jouées assez souvent ou qui sont passées de mode, j'aimerais bien maintenant vous faire écouter l'une des merveilleuses proses lyriques pour voix et piano que Claude Debussy compose à peu près à la même époque que celle du Chasseur maudit de César Franck. Alors des quatre proses lyriques, j'ai bien entendu choisi la dernière, je dis bien entendu parce qu'elle est parfaitement raccord avec le thème de notre émission, puisqu'elle décrit en quelque sorte toute une journée de dimanche en famille, avec une certaine excitation matinale et le jeu des enfants avant que tout le monde ne se prépare précipite dans le teuil-bohu des gares de banlieue pour aller à la campagne déjeuner en famille chez la grand-mère ou chez la grand-tante. Puis le retour le soir, un peu mélancolique, un peu nostalgique, parce qu'on s'est amusé sans doute, mais peut-être pas autant qu'on l'aurait imaginé. Et l'on regarde en rêvant les étoiles, en songeant que voilà, le dimanche c'est fini. Demain, lundi matin, la semaine reprend. Je vous propose d'écouter maintenant ce tableau coloré, la quatrième des proses lyriques de Claude Debussy, interprétée par la soprano néerlandaise Ellie Hamling, accompagnée au piano par Dalton Baldwin.
Chez les petites filles, chantant d'une voix affirmée, des mondes obstinés, ou de bonnes tours, n'en ont plus que pour quelques jours. Dimanche, les bonnes se ferment, tout le monde apparaît pour des bons lieux d'aventure, en se disant adieu, avec des gestes dimanche, que trop vite, dévoré par l'insatiable ténèbres. Et les bons signaux des routes échangent d'un œil unique des impressions toutes mécaniques. Dimanche, dans le bleu.
Dimanche, les trains vont vite. Dimanche, les gares sont folles. Dimanche, sur les villes. Dimanche, dans les cœurs. C'était la dernière des proses lyriques, les seules mélodies dont Claude Debussy a fait à la fois la musique et les paroles. Et nous écoutions la soprano Ellie Hamling accompagnée au piano par Dalton Baldwin. Et à propos de campagne et de dimanche, connaissez-vous le merveilleux film Un dimanche à la campagne de Bertrand Tavernier? Réalisé en 1984, il nous fait vivre tout un dimanche familial autour de la figure d'un étonnant grand-père joué par Louis Ducreux, de ses deux enfants interprétés par Sabine Azéma et Michel Aumont, et de ses trois petits-enfants. Le charme de ce film unique, aux images d'une rare poésie, est entièrement sublimé par la musique de Gabriel Fauré, qui semble avoir été écrite tout spécialement pour lui. On y entend par exemple le second quintet avec piano, dont le deuxième mouvement est un modèle de scherzo à la française, ruisselant de gamme, de fantaisie, de malice et d'énergie, à l'instar des enfants turbulents de notre dimanche campagnard. C'était la légèreté virtuose du scherzo du second quintet de Gabriel Fauré par le quatuor Vianova et le pianiste Jean Hubeau. Alors si le film Un dimanche à la campagne est donc sorti en France en 1984, cette même année voit la création à New York de Sunday in the Park with George de Stephen Sondheim, l'un des plus grands compositeurs vivants de comédie musicale auquel on doit également, entre autres, les paroles du célèbre West Side Story. Et de la même manière que Bertrand Tavernier s'est inspiré pour son film des tableaux impressionnistes de Renoir, la comédie musicale de Sondheim s'inspire du célèbre tableau pointilliste de Georges Seurat, Un dimanche sur l'île de la Grande Jatte. L'intrigue imagine en effet la vie du peintre, captivé par l'élaboration de ses œuvres et de son univers pictural. Ordre, harmonie, équilibre, lumière.
Order. Design. Tension. Composition. Balance. Read this word.
Harmony.
So much love in his words. Forever with his colors. How George looks. He can look forever. What does he see? His eyes so dark and shiny, so careful, so exact. White, a blank page or canvas, his favorite. So many possibilities.
Ordre, harmonie, équilibre et lumière, c'était donc un extrait de la comédie musicale Sunday in the Park with George du compositeur américain Stephen Sondheim. C'était La Preuve par Z, une émission de Jean-François Zigel, réalisée par Anne Weinfeld et préparée avec Théo Friconeau. Chef opérateur du son Antoine Viossa. À la semaine prochaine.